terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 15h à 17h sur CIBL.
C'est un duo que je reçois. Il rigole déjà. C'est un duo que je reçois, c'est Harry Julmy, c'est Joanna Chevalier de Never Was Average. Alors, je vous dis, on partage tout parce que c'est la famille. Je vous dis, j'avais écrit l'organisme. Je vous dis pas le message que j'ai reçu. Cyril, corrige ça parce que nous ne sommes pas un organisme, nous sommes une compagnie de production créative. Et là, j'ai dit oui, boss, je corrige. Et j'ai corrigé. Donc, ils sont avec moi. Merci, merci d'être là. Je suis vraiment très heureux, comme vous imaginez, de vous avoir dans cette émission parce que ça fait allez on va dire les choses vraiment on va dire les choses comme elles sont, on va dire les vraies affaires. Ça fait un bon moment que je vous vois. J'ai pour vous, je dis sincèrement, c'est la première fois que je vous le dis, j'ai pour vous une fascination, une admiration quand je vois ce que vous faites. Et il est arrivé que, oui, on se croise, c'est quoi, ces trois dernières années et tout ça. Mais jamais je ne vous l'avais dit, mais je regardais toujours vos affaires, puis je disais, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Donc, j'avais préparé des choses, je les ai mises de côté parce que j'ai envie de vous entendre, j'ai envie de comprendre. Une question qu'on vous a posée mille fois, Never Was Average, c'est quoi? À part être une compagnie de production créative, c'est quoi exactement?
Premièrement, je vais juste commencer par dire le respect est mutuel. Ça fait un plaisir pour nous d'être ici. Puis on va essayer de répondre à tes questions.
C'est vrai, tu mets de même nos capacités.
Des fois, on parle.
Comme tu as dit, des fois, on parle. Puis aujourd'hui, on va essayer de parler. Puis pour répondre à ta question, pour de vrai, Never Was Average, c'est une idée, c'est un mode de vie. Pour nous, c'est ce qui nous représente le mieux, en fait. Comme je dis toujours, c'est Never Was Average, c'est quelque chose qui évolue aussi avec le temps. Fait qu'il y a plusieurs définitions. Les gens peuvent s'approprier aussi le nom. Mais pour nous, ça l'a toujours été en termes de... C'est ce qui représentait notre authenticité. C'était d'exprimer le fait qu'on n'essaie pas d'être comme personne d'autre que nous-mêmes. Puis on veut embrace notre authenticité, puis on n'essaie pas de se comparer à la moyenne, puis on négocie pas avec la médiocrité, ça, oui.
Ça c'est vraiment ça. On veut vraiment pas être dans la boîte que la société veut nous placer. Donc par exemple, si quelqu'un nous dit, comme tu as dit, on est un organisme, Non. Voici qu'est-ce qu'on fait d'autre. Parce qu'on peut tout faire.
Et c'était même pas sur ce ton-là.
Non, je sais.
J'ai aimé comment il a mis un ton.
Non, il a fait un ton.
Je l'ai DM, puis il a mis un ton sur mon DM.
Mais j'aime comment que... C'est vraiment ça, Never Was Average. Comme tu l'as dit, c'est une idée, c'est un processus qui change à chaque fois. C'est aussi une communauté. Il y a des gens qui connaissent Never Was Average sur plusieurs facettes.
Okay.
Donc, toutes les facettes sont correctes.
Okay. Bon, moi, il y a une facette que je vous ai dit, j'avais vu deux, trois affaires. Il y a une facette sur laquelle je veux peut-être revenir. Dans le sens où je voudrais que vous me parliez de la boutique. Peut-être que là, ça va me donner une idée. Si je vous dis la boutique, qu'est-ce que vous me dites?
Boutique 363.
Qu'est-ce que
c'était le nom de notre boutique.
Voilà.
Donc, une boutique de vêtements pour hommes. Bon, en fait, comme pour toutes sortes de personnes qui voulaient s'habiller avec les vêtements qu'on offrait. C'était aussi une communauté. Et c'est aussi là que Never Was Average a commencé.
C'est cet aspect que moi j'ai découvert. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais quand j'ai découvert ça, je me suis dit, OK, d'une boutique, on arrive à ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a tout un processus là. Je pense que c'est ça qui fait la caractéristique de ce duo-là. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai dit la boutique. Que vous ne considérez pas comme, de ce que j'ai pu comprendre, c'est pas, pour vous, ce n'est pas un échec. C'est plutôt comme un départ, un tremplin, non?
Définitivement, parce que... il n'y aurait pas de Never Was Average sans cette période-là de notre vie, sans la boutique, parce que, comme je dis toujours, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment eu notre premier comme, awareness de la société, de l'impact de la communauté aussi. Puis, comme je dis toujours, C'est à ce moment-là qu'on a vu, dans ce temps-là, il n'y avait pas de vocabulaire pour parler du racisme systémique, microagression, exclusion, tout le truc d'inclusivité, ça n'existait pas en 2013. Mm-hmm. Mais c'était des choses qui étaient encore réelles dans ce moment-là. Puis c'est ce qui nous a donné la motivation de créer Never Was Average pour créer un changement. Puis, c'était beaucoup de péripéties, mais qui nous ont appris beaucoup sur, sur notre communauté, la société. C'est ce qui nous a permis d'amener Never Was Average avec des solutions puis une intention de vraiment faciliter la communauté à Montréal puis amener une approche qui est vraiment plus inclusive dans le domaine créatif.
Ouais. Aussi partager des informations que nous, on a appris, qu'on n'avait pas appris, qu'on a ouvert la boutique. Puis le but, je pense que comme notre intention a toujours été la même. On a toujours été là pour comme présenter juste d'autres possibilités ou d'autres choses à faire ou à aller voir, regarder de ce côté-là à la place de regarder l'autre côté, parce que nous, on a été obligés d'être créatifs quand on a été entrepreneur. Mm-hmm. Donc, tout ce qu'on a vécu du côté que comme ce soit le racisme systémique, des micro-agressions, etc., même si on ne savait pas c'était quoi, on savait que comme, OK, ici, il y a un problème, il faut trouver une solution. Puis pour nous, la solution, c'était de continuer quand même à avancer et voir qu'est-ce qui s'appliquait pour nous, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas non plus. Donc, la boutique est très, très importante dans l'histoire de Never Was Average.
Dans l'histoire de Never Was Average. Parce que l'autre chose, là, on parle, ça fait 5 minutes, puis il y a des gens qui sont en train de se demander, mais OK, de quoi ils sont en train de parler? C'est quoi exactement? Mais ce qui est fascinant, et c'est pour ça que je vous ai dit tantôt, j'ai utilisé le terme fascination, c'est que je vous vois la première fois, ou du moins je vois ce que vous avez fait. Donc je me dis, ah OK, ce sont des artistes. Et puis quand je m'approche un tout petit peu, que je commence à m'intéresser à vous, je me rends compte que non, ce n'est pas vraiment des artistes. Ce sont des entrepreneurs. Ah non, ce n'est pas vraiment des entrepreneurs. OK, ce sont des créatifs ou des créateurs. Ouais, mais c'est comme si c'est quelque chose de pas clair. Et là, je me rends compte qu'en fait, je pars toujours de la base. Johanna, toi, tu étudies la commercialisation de la mode. Mm-hmm. Et tu es aujourd'hui directrice de création de Never Was Average, qui est un mélange de plein de choses. Harry, toi, tu es un entrepreneur né.
Exact.
Aujourd'hui, tu es à la tête de quelque chose qui est une compagnie qui crée des affaires un peu compliquées.
Ouais.
Ça, c'est moi qui dis compliqué. Hein.
Ouais.
Bon. Mais c'est vraiment, vous voyez, c'est un peu tout ce processus-là. Et j'ai, dès le début, vous avez dit, ouais, on n'est pas conformiste, on est authentique et tout. C'est pour ça que j'ai parlé de la boutique, parce que moi, en lisant, c'est là où je me suis rendu compte que c'est à ce moment que vous découvrez beaucoup de choses sur vous. Mais est-ce que vous étiez des créateurs cachés? C'était enfoui en vous ou bien c'est...
Ben, en fait, pour ma part, puisque j'étudie en commercialisation de la mode, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est la beauté, l'esthétique. Bon, à la fin, c'est de vendre un produit. Et moi, qu'est-ce que j'aimais? C'était pas le résultat final, mais c'est vraiment le processus. Donc, comment qu'on fait découvrir un produit à une clientèle qui ne sait pas c'est quoi? Comment qu'on les fait pour qu'ils achètent le produit, etc.? Donc, moi, qu'est-ce que j'ai tout le temps essayé de faire? C'est genre d'appliquer ces stratégies-là, mais en essayant des nouvelles choses. Donc, quand je dis des nouvelles choses, c'est pas des choses qui fonctionneraient juste en mode. À la fin, moi, je suis quelqu'un qui est très curieuse à la base. Donc, je regarde qu'est-ce qui se passe dans, je parle, la technologie, la politique, peu importe qu'est-ce qui se passe, j'aime ça voir et découvrir, OK, c'est quoi les autres personnes font pour partager un peu leur message ou peu importe leur pensée qu'ils ont. Puis, qu'est-ce que j'aime avec qu'est-ce que je fais aujourd'hui, c'est directrice de création, mais pour de vrai, c'est plus que ça, mais c'est le fait que comme on est capable de créer un espace, peu importe c'est quoi le projet, qu'on présente justement des stratégies ou des outils que moi j'ai appliqués ou que Harry a appliqués. Mais après ça, c'est les gens qui font ce qu'ils veulent avec l'espace. Nous, on est juste là pour le créer. On n'est pas là pour te forcer à faire quelque chose.
Est-ce que si je dis que vous stimulez la créativité des gens, ça vous va?
Ouais.
Je me demande si c'est vous qui stimulez la créativité des gens ou alors les gens s'appuient sur votre créativité.
J'aime comment tu as dit le mot stimuler. Je dirais que c'est comme peut-être qu'on stimule parce qu'on... On commence avec quelque chose, première étape, puis les gens font qu'est-ce qu'ils veulent après. Ou sinon, c'est comme peut-être qu'on les aide à, même avant, stimuler à se questionner. Beaucoup pensent qu'ils ne sont pas des créatifs, des créateurs, mais pourtant, tout le monde est créatif. Dès que tu te lèves le matin, tu dois trouver une façon de figure out qu'est-ce que tu vas faire dans ta journée. Donc, de cette façon-là, tu crées ta propre journée. Tu crées ton propre, je sais pas comment dire, ta propre ligne directrice. Donc, je pense que nous, on est plus là
dans quel objectif? Ce que vous faites, vous le faites... OK, c'est écrit là sur le site internet. Mmh. Hein, les gens, ils vont aller sur le site internet. Moi, je veux sortir du site internet, justement. Je parle là des non-conformistes. Je vais essayer d'être non-conforme. Moi, je ne m'occupe pas de ce qu'il y a sur le site internet. Je veux plus vous entendre. Parce que c'est autour de la culture, des arts, du bien-être. Mais j'ai envie de vous dire, pas que ça existe déjà. C'est l'objectif, quand vous allez sur un projet culturel, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous voulez faire qui est différent de ce que les autres font?
Nous, ce qu'on essaie, notre objectif premier, c'est de faciliter la communauté. Et ce qu'on veut dire par là, c'est de favoriser un sentiment d'appartenance, un sentiment de communauté, rapprocher les gens entre eux, faciliter ces relations-là pour ultimement les aider à améliorer leur bien-être et cultiver leur bien-être. Je vais faire un parallèle avec la boutique. Mm-hmm. Donc pour nous, cette transition-là, c'était aussi un moment de découvrir c'était quoi le bien-être aussi. Parce que ça, ce moment-là a été tellement un moment difficile pour nous que ça a eu un impact sur notre bien-être. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé notre créativité pour surmonter cet obstacle-là et cette impasse-là. Puis c'est là qu'on a réalisé que c'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là, comme que tu viens de dire, comme d'avoir cette opportunité de stimuler sa propre créativité. Mm-hmm. Donc nous, c'est ce qu'on fait à travers Never Was Average. C'est qu'on utilise notre créativité pour stimuler la communauté vers une direction qui est un peu plus... qui réunit un peu plus les gens, puis qui les amène à se sentir empowered de prendre soin de leur bien-être. Mm-hmm. Donc on va les exposer à différents concepts, on va les exposer à différentes pratiques, qui va tout ça les outiller pour justement améliorer leur qualité de vie, avoir des meilleures relations entre eux-mêmes, avec eux-mêmes, avec leur cercle, avec leur famille, leur communauté et tout. Fait que c'est vraiment ça l'intervention qu'on essaie de faire dans notre société, c'est qu'on regarde nos communautés puis on se dit il faut qu'on arrive à se réunir ensemble puis partager des connaissances entre nous. Puis connaissances, nous, on mise beaucoup sur l'expérience vécue, les perspectives. Donc, quand on crée des événements ou qu'on crée des projets, c'est de partager cette expertise-là ou de partager cette perspective d'une personne à une autre. Puis de sentir que à la fin, on n'est pas seul.
OK. Mm-hmm. Je vois un peu. Est-ce que si... Et je connais un peu votre sens critique. Si je dis que c'est très idéaliste, est-ce que vous le prenez ou pas?
Mais je crois que ça soit quelque chose d'idéaliste, je pense que ça, c'est pour justement, c'est pour stimuler l'envie d'évoluer.
Mm. Pour aussi stimuler l'imagination, comme ça, c'est important aussi. Comme à la fin de la journée, c'est pour ça que je disais tantôt, comme on ne suit pas qu'est-ce que la société te dit que tu dois faire. Si tu ne stimules pas ton imagination, tu ne vas pas savoir c'est quoi les possibilités qu'il y a. Aujourd'hui, tu peux être assis, tu fais la radio, mais pour de vrai, tu pourrais faire quelque chose d'autre que tu n'auras jamais même pensé. Parce que, justement, tu ne prends pas le temps de réfléchir à même qu'est-ce que toi, tu veux. Tu ne prends pas le temps d'écouter qu'est-ce que les autres personnes de ta communauté, eux, vivent. Puis après ça, voir c'est quoi les liens, c'est quoi qui te stimule, c'est vers quelle direction tu peux regarder. Fait que je pense que comme... Pour nous, Never Was Average, à la fin de la journée, comme Marie a dit, c'est sur le bien-être, mais sur le bien-être, il faut que tu travailles sur toi-même en premier.
C'est pour ça que vous vouliez me mettre dans une espèce de bulle, là. Heureusement que ça tombait les dimanches, donc vous ne pouvez pas venir. Vous voulez me faire rentrer dans une bulle, vous poussez les gens à sortir de leur zone de confort.
Ouais, c'est vraiment ça.
Oui, c'est ça. Hein?
Mais tu sais, pour répondre un peu plus en profondeur à ta question, Cyril, pour nous, c'est parce qu'on utilise la culture. Sauf si on fait référence à... notre condition en tant qu'entrepreneur noir pour nous, quand on a commencé la boutique. Quand je te dis qu'on a eu ce premier awakening, cette première prise de conscience-là, c'est parce que nous, on pensait qu'on allait pouvoir rentrer dans cet espace d'entrepreneuriat et qu'on allait avoir les mêmes opportunités, la même facilité, le même accès aux ressources que tous les autres entrepreneurs. Et ce n'était pas le cas. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait vraiment des inégalités dans notre société. Puis on a dit, OK, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est utiliser notre créativité pour amener des solutions à ces inégalités-là. Mmh. So, puis quand on parle de vraiment d'authenticité, puis d'être nous-mêmes, puis de ne pas se mettre dans des boîtes, c'est parce que, tu sais, je veux pas... c'est des choses qu'on sait déjà aujourd'hui, mais c'est tout ce manque de représentation-là qu'il y a dans notre société qui fait en sorte qu'un jeune ou une jeune grandit et son imagination, elle est comme déjà limitée parce qu'elle n'est pas capable de se voir faire certaines choses parce qu'il n'y a pas de représentation dans certains domaines. Mmh. Donc ça, justement, ça limite ton parcours, ça limite tes possibilités. Mmh. Donc nous, à travers nos projets, ce qu'on veut faire, c'est de montrer des possibilités qui sont manquantes dans notre société.
Puis la façon de le faire, c'est à travers l'art et la culture. Parce oui. que c'est ça que les gens... pour nous, c'est plus facile.
Comme c'est notre essence en
ça,
même temps.
C'est notre essence. Puis aussi, pour revenir, moi qui étudie en mode, comme moi, les arts et la culture, c'est facile. Tu n'as pas besoin de rien dire. Tu fais une photo, tu montres. Là, ça stimule des questions, ça stimule des pensées. Après ça, c'est toi qui décides comment tu l'interprètes. Mmh. Donc, dans ce côté-là, je trouve que ça a vraiment plus un impact concret que, admettons, si on décide de comme, voici qu'est-ce que vous devez faire, step 1, 2, 3, 4, puis il n'y a pas d'autre façon de le faire.
Mmh. Harry disait tantôt, au moment de la boutique, qu'il y avait des termes racistes systémiques, tout ça, on ne mettait pas de termes autour de ça. Petit exemple, là, par rapport à la boutique, c'est par exemple, vous voulez des marques de vêtements. Et puis, on ne vous donne pas toute la gamme de vêtements. On vous limite à un certain type de vêtements, alors que la marque a plusieurs vêtements. Donc, d'un acte d'injustice, vous partez de là, puis vous vous dites, OK, nous, on va je sais pas, casser ces barrières-là et créer quelque chose. Lorsque vous faites la fresque sur Saint-Laurent, mmh. Oui. Non,
ben, sur Sainte-Catherine,
ouais. C'était un peu plus haut là-haut. De le mettre sur la fresque La vie des Noirs compte, là on l'avait mis en français, au-delà du message qu'on passe, qu'est-ce que vous avez apporté de différent de ce qu'on voyait déjà?
Ben, pour nous, l'intention derrière tout ça, c'était de créer une conversation okay. localement.
Ça revient beaucoup dans votre, ouais, dans vos, j'ai envie de dire, dans vos réalisations, conversations.
C'est important parce que de la façon que Johanna et moi on a grandi, c'était pas quelque chose qui était présent d'avoir un espace pour juste discuter. Tu vis tes événements, tu vis ce que tu vis, puis tu dois toujours passer à autre chose, puis t'as jamais vraiment le temps de vraiment discuter sur qu'est-ce qui, de discuter de ta vie, discuter ce qui se passe, etc. Fait que pour nous, ce qu'on veut juste faire, c'est créer des moments où est-ce que tu peux prendre le temps de juste analyser, puis de réfléchir, puis de prendre le temps de découvrir toi-même et les autres autour de toi. Puis nous, on fait juste utiliser les arts. Et on croit que comme les artistes, ils ont beaucoup d'impact sur les réflexions, stimuler l'imagination, comme tu viens de mentionner plus tôt. Donc nous, on adore collaborer avec les artistes pour créer cette opportunité-là pour les gens de la communauté, de voir une œuvre et de les faire penser à quelque chose que normalement, ils n'auraient peut-être pas par eux-mêmes pensé à ces choses-là, puis de voir cette œuvre-là, puis après ça, ils puissent en discuter avec soit leurs amis, leur famille,
des étrangers,
que ce soit au travail et tout. Donc pour nous, la fresque, c'était avec tout ce qui se passait aux États-Unis, autour du monde, c'était comment on était capable d'utiliser cette opportunité-là pour parler de ce qui se passe ici localement, ouais, à Montréal et au Québec, et de ne pas juste dire « Oh non, ça arrive là-bas », sans parler des injustices qui se passent ici localement. Donc c'était ça l'objectif de la fresque, et c'était ça.
Et quand je dis ça, alors depuis qu'on parle, quelqu'un qui ne connaît pas peut penser que, ok, vous rencontrez juste des groupes, oui, des groupes communautaires avec tout ce que ça a de noble, mais que ça c'est pas juste une affaire d'individus, vous travaillez aussi avec des institutions. Là, je pense par exemple au Musée des Beaux-Arts. Est-ce que, Johanna, tu veux nous dire un peu quelques mots sur ce que vous avez fait et qui, de ce que je comprends, a quand même changé la perspective apparemment sur le, puisque depuis ce moment-là, ben ça a changé un peu leur façon de fonctionner.
Mm-hmm. Ben en fait, qu'est-ce qu'on a fait avec eux, c'est vraiment, je vais dire, des interventions communautaires, je vois un mot, mais en fait c'était le fait que justement on parlait de représentation positive qu'il y avait pas dans les musées. On sait que c'est très majoritairement blanc, donc nous on se disait, si c'est des c'est majoritairement blanc, c'est sûr que ça va pas être, il va pas avoir une représentation qui fait du sens. On va dire les vraies affaires comme ça. Donc, la réflexion, c'était vraiment, OK, comment on peut avoir ce genre de conversation pour faire comprendre aux gens qui viennent au musée que, comme, voici qu'est-ce qu'on dit par la représentation positive. C'est pas juste de mettre une œuvre d'une personne noire. Non, on a besoin de savoir c'est qui l'artiste, on a besoin d'avoir des commissaires noirs, on a besoin d'avoir genre plus noirs, toutes sortes de la diversité pour justement avoir ce changement à l'intérieur, parce que c'est tellement ancré dans un système qui fait que comme on... Il y a des gens... Si on n'avait pas collaboré avec le musée, il y a des gens qui n'auraient jamais été au musée. Puis je peux même dire pour Harry, Harry n'avait jamais été au musée avant. Puis on a commencé à faire...
C'est vrai.
Et on a commencé à faire...
C'est une histoire vraie.
Et ramener quelqu'un comme Harry au musée, c'est quand même important. Ça veut dire qu'il y a des personnes comme lui qui le ressemblaient, qui seraient intéressées à aller au musée. Donc pour nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est vraiment de créer des espaces de conversation et par la suite de s'assurer qu'on ramenait des artistes, parce qu'à la fin de la journée, c'est difficile pour un artiste émergent de rentrer dans ce système. Donc dès qu'on a commencé à collaborer avec des artistes, automatiquement, ils sont professionnalisés, ils sont reconnus par les pairs parce qu'ils sont au Musée des Beaux-Arts. Donc nous, il y a comme tout un processus que peut-être les gens, eux, ils voient juste la conversation. Mais pour nous, c'était vraiment plus loin que ça. C'est comme
comment... expliquer ce qu'on a fait avec le musée?
Oui,
tout à fait.
Ouais, donc on a fait des ateliers de conversation. On a fait on avait l'occasion de faire une installation dans l'exposition de Picasso. Puis à partir de cette installation-là, on a commencé trois séries de conversations. Et par la suite, puisqu'on a été en contact avec l'équipe du musée, on a fait d'autres projets en lien avec l'éducation inclusive. On a fait une série photo, une conversation. Fait que nous, à chaque fois qu'on travaille des institutions, c'est tout le temps une installation artistique avec une conversation. Juste pour comme poursuivre les réflexions.
Pour que les gens comprennent un peu, qu'on aille au bout, en fait, du processus.
Ce qui est important aussi de mentionner, puis ça, c'est une des raisons pourquoi j'aime travailler avec Jeanna, c'est parce que avec Jeanna, elle s'assure toujours de ramener nos histoires dans les endroits où est-ce que tout le monde les ignore. Et c'est ce qu'elle a fait au musée, c'est qu'elle a amené les histoires, la réalité des Montréalais qui viennent de nos communautés, et elle leur a donné une plateforme, non seulement aux artistes, mais aussi à des citoyens de notre communauté, à juste se sentir représentés, puis de partager leur réalité au musée. Puis c'est ce qu'elle fait dans à chaque fois qu'elle fait une intervention dans un musée, une institution culturelle. Puis c'est ça qu'on a besoin un peu plus dans le milieu. C'est de pouvoir exposer nos histoires, puis de donner la chance à nos artistes de vraiment de pouvoir diffuser leurs arts.
Puis un peu de challenger les pensées, de challenger qu'est-ce qui se fait maintenant. Je trouve que c'est ça qui manque.
Mais ça vous rend aussi quelque part un peu critique, voire dur avec... et là je vais rester dans les communautés noires, ça vous rend un peu critique et dur avec ceux qui sont plutôt, je dirais, conformistes, non?
Non. Pour être sûr que je comprends ta question, tu peux la reformuler?
C'est-à-dire que cette vision que vous avez, tu disais justement, elle vient avec, elle essaie d'amener la représentation là dans des espaces qui sont parfois fermés, et puis sortir un peu du conformisme, sortir des zones de confort. Est-ce que cette façon que vous avez de travailler, de voir la société, de voir la culture, est-ce que ça ne vous rend pas plus dur, plus critique avec... par exemple, les artistes noirs ou des gens de culture, des communautés noires qui sont plutôt dans le conformisme?
C'est une bonne question. Tu me permets de répondre?
Oui, vas-y, c'est une bonne question.
On a déjà eu un début de discussion comme ça, toi et moi. Je pense que tu vois à quoi je fais allusion.
Ouais, à 100%. Je crois pour moi la meilleure façon de répondre à ta question, c'est que de un... Je ne dis pas que notre façon de faire est la meilleure et la seule façon de faire. Je crois simplement que pour notre communauté, si on parle de la communauté noire, je pense que c'est important qu'on soit capable de se mettre ensemble puis qu'on puisse décider de c'est quoi la meilleure intervention qui met de l'avant notre communauté et non l'individu. Et pour nous, ce qu'on a toujours essayé de faire le plus possible, c'est de toujours inclure la communauté dans ce qu'on fait. Donc, on est vraiment dans notre approche. Donc, je te donne le meilleur exemple. Comme tu as mentionné le Musée des Beaux-Arts, quand le Musée des Beaux-Arts, Nathalie Bondil a fait la demande de collaboration à Jeanna, elle voulait travailler avec Jeanna Chevalier. Jeanna Chevalier, elle a dit, pour travailler avec moi, tu vas devoir travailler avec ma communauté et voici ma communauté. Donc elle a pas mis son intérêt personnel de l'avant. Elle a dit, je vais prendre cette opportunité-là pour faire avancer d'autres membres de ma communauté aussi qui pourraient prendre avantage de cette opportunité. Et je crois que si on, le plus souvent qu'on est dans cette optique-là, le mieux qu'on va être en mesure de créer quelque chose qui nous ressemble, et non seulement qui nous ressemble, mais qu'on contrôle aussi. Parce que c'est bien beau d'aller dans ces institutions-là, partager nos histoires et tout ça, mais ça reste que ces infrastructures-là ne sont pas à nous. Ces espaces-là ne nous appartiennent pas. Donc je ne dirais pas que on est critique pour ceux qui sont conformistes, mais je pense qu'il devrait quand même avoir...
On est entre nous, là.
Ouais, non, c'est vraiment une réflexion.
Non, je suis 100% honnête dans ma réponse. Parce que si je dis que je suis critique d'eux, c'est parce que ça veut dire que je prétends avoir la solution.
Ouais.
Et je ne peux pas dire ça. Tout ce que je fais juste dire, c'est que je crois que pour ceux qui sont conformistes, est-ce que c'est intentionnel? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont conformistes?
Aussi,
et c'est plutôt ça.
Puis, je pense que ça revient à une conversation qu'on a souvent, moi et Harry, c'est comme, c'est quoi tes intentions? Qu'est-ce que tu fais avec le rôle que tu as? Tu peux être conformiste, mais c'est quoi tu fais avec les ressources que tu as maintenant? Puis, je pense que c'est là que comme les réponses vont revenir. Parce que c'est vraiment important d'être quand même intentionnel si on veut faire avancer nos communautés. Sinon, c'est quoi qu'on fait?
Puis pour répondre à la question, parce qu'il y a une double question, parce que toi et moi, on a une conversation la dernière fois. Donc ça, c'est la deuxième partie de ma réponse. Sur la deuxième partie de ma réponse, c'est que oui, je crois qu'il y a une déprogrammation qui doit être faite. Je crois que, justement, parce que nous...
Ne réfléchis pas trop.
Non.
Vas-y.
Parce que nous, on s'identifie à aucune industrie.
Ouais.
Nous, on est juste nous. Nous, on vient, on fait notre intervention et on le voit plutôt comme... une nouvelle façon de voir les choses ou de faire les choses. Et quand je dis qu'il y a une déprogrammation qui doit se faire, c'est que souvent, ce qu'on remarque, c'est que les gens, on leur dit qu'il y a une façon traditionnelle de faire les choses et ils pensent que c'est la seule façon de faire pour qu'ils puissent réussir. Là, dans ce cas-ci, je me dis, il y a une déprogrammation à faire parce que c'est cette façon traditionnelle à faire a été prouvée que ça ne fonctionne pas pour notre communauté. Parce que pour revenir à la conversation qu'on avait, on ne contrôle pas l'infrastructure culturelle ou commerciale. Donc, ces systèmes-là ne sont pas faits pour notre communauté. Donc, de se conformer à ce système-là n'est pas à l'avantage de notre communauté.
Néo-Québec, c'est rafraîchissant.
Je suis toujours en compagnie de Johanna Chevalier et Harry Julmise de Never Was Average et on parlait justement de leur touche, de leur marque, de leur originalité. Et Harry était en train d'expliquer comment justement il faut sortir de la façon traditionnelle de faire les choses. Je synthétise un peu, hein, c'est ça, mais sortir de la façon traditionnelle des choses. Vous avez, et justement vous êtes sur un projet actuel, une cohorte de créateurs que vous accompagnez. Des créateurs pas comme les autres, essentiellement de, alors lui qui n'aime pas l'industrie, le mot industrie, mais qui viennent tous du cinéma, qui sont dans le milieu du cinéma, c'est ça? Parlons de cette corde que vous accompagnez et justement comment vous faites en sorte, le titre le dit, créateur pas comme les autres.
Exact. So,
déjà quand j'ai vu cette nouvelle, là, je vais être très honnête, quand j'ai vu ça, j'ai dit ouais. Ok, là ils accompagnent des gens dans le cinéma, qu'est-ce qu'ils vont leur apporter?
Ouais, so je vais expliquer un peu puis tu pourras compléter pour les informations que je manque. Donc pour nous, c'était une intervention. Encore une fois, à travers Never Was Average, on veut supporter la communauté, mais on veut aussi également supporter notre communauté d'artistes. Et une des choses qui est ancrée dans notre approche pour nous, vous pouvez nous voir que nous, on va dans les industries, on va identifier où les ressources se trouvent, on prend ces ressources-là, puis on les ramène dans la communauté. Puis là, ça l'a donné que pour cette fois-ci, c'est une intervention qu'on met dans le domaine du cinéma. Puis c'est quelque chose qu'on avait déjà commencé en 2018, en fait. On avait déjà commencé à parler avec des créateurs du cinéma et tout ça. On avait déjà identifié quelques problématiques qu'il y avait dans le domaine. Et donc, quand on a eu cette collaboration-là avec le CMF, donc, ils nous ont vu le travail qu'on faisait. Ils nous ont dit, vous avez déjà une communauté d'artistes. Nous, on a un programme de développement sectoriel. On serait honorés que vous pouviez nous développer une initiative. Donc, Donc, nous, notre but de cette initiative-là, c'était comment qu'on arrivait à mobiliser des ressources pour les donner aux créateurs, mobiliser l'expertise et l'expérience des artistes et pouvoir supporter la relève de nos créateurs. Et pourquoi on l'a appelé des créateurs pas comme les autres, c'est parce qu'en fait, on ne veut pas simplement se, créer un espace pour ceux qui s'identifient comme cinéastes, mais on reconnaît le talent de nos créateurs dans différents médiums, que ce soit dans les arts visuels, dans la peinture, que ce soit, soit dans la photographie. Donc, on se dit comment on peut t'outiller pour que tu puisses être en mesure de raconter une histoire de film, cinéma, documentaire, série web, ou sinon un long métrage. Donc, le but de cette initiative-là, c'était vraiment d'aller chercher l'expertise des meilleurs des artistes qu'on a dans le milieu, que ce soit des Myriam Charles, qu'on a exemple Stéphane Vernat, on a également Eric Idriss Kanago. Mm-hmm. Donc, on a toutes ces, on a Nadia aussi également, Louis Demarchais, que je pense qu'il a fait ton show dernièrement. Mm-hmm. Donc, comment on est capable de mobiliser ces artistes-là et créer un vrai sentiment de communauté dans l'industrie? Parce que présentement, tous ces artistes-là travaillent en silo, travaillent tout seuls dans leur coin et ils ne savent pas qu'il y a des. Il y a énormément de programmes de subventions pour les aider, mais ces programmes-là, cet argent-là ne seront jamais à ces artistes. Donc, nous, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment de réduire cet écart-là. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un programme de formation en ligne et après ça, un programme de formation en personne à travers des ateliers. Donc, le projet des créateurs, pas comme les autres, c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher, de prendre les ressources puis de les amener aux créateurs pour qu'ils puissent par la suite bâtir leur carrière.
Mmh. C'est-à-dire que vous n'avez pas, entre guillemets, de regard sur leur œuvre artistique, c'est plus de leur donner les moyens de travailler.
C'est ça. Plus les outils. Et puis, oui. Tu sais, comment que nous, on le voit, c'est vraiment du développement
de compétences.
De compétences, ouais. C'est okay. Ça. Donc, nous, on, comme Harry a dit tantôt, on a plein d'artistes, ils ont les outils. Mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est de partager à la prochaine génération. Donc, on les met ensemble. Mais après ça, c'est vraiment aux individus tout seuls de comme travailler sur leur projet aussi, parce qu'à la fin de la journée, tu dois quand même avoir un projet
tout à fait
à produire ou à développer. Donc.
Ouais, puis ça revient un peu à ce que je disais un peu plus tôt pour nous, c'est d'amener les ressources qui vont nous pour permettre à chacun de ces artistes-là d'améliorer leur œuvre créative. Donc, de vraiment s'assurer qu'ils sont capables de développer des habiletés qui leur permettent de créer les meilleures œuvres possibles. Donc, nous, on veut vraiment rester loin de la médiocrité. On veut vraiment leur sentir qu'ils ont les ressources nécessaires, que ce soit en termes de financière, que ce soit en termes d'expertise, connaissances, réseau aussi également, parce que c'est un milieu qui est extrêmement difficile à naviguer. Donc, on veut vraiment apporter un soutien par rapport à ça et c'est ce que le programme sert à faire pour les prochains mois jusqu'en novembre prochain.
OK, ça dure jusqu'au mois de novembre.
Exactement, ouais.
Je voudrais qu'on termine avec avec un volet peut-être beaucoup plus personnel. En dehors des projets, là je pense que vous l'avez assez affiché là, médiocre, parce que pour vous c'est non à la médiocrité. En dehors de ces projets, à quel projet vous dites non? Parce que quand je vous entends, j'ai l'impression que la liste d'attente de la part d'ici jusqu'à Vancouver. À quel projet vous dites non?
Honnêtement,
moi, j'allais dire, tous les projets que comme ça ne fit pas avec nos valeurs et qu'il n'y a pas d'intention, on va dire non, tout de suite.
Mais tous continuer. Les projets, Johanna, ont de la valeur, et, non, du moins, pas, ne dire... répondent peut-être pas à vos valeurs, mais ont des intentions, non?
Non, tu serais étonné. Mais je vais laisser Harir l'expliquer correctement, mais tu serais étonné.
Oui ou non, allons-y. À quel projet vous dites non?
Honnêtement, c'est qu'on a une vision qui se porte sur 15-20 ans. Puis c'est ce qui nous aide vraiment à guider et décider quel projet qui s'aligne avec cette vision-là. Pour nous, c'est un travail continuel qu'on veut faire pour améliorer la condition de notre communauté. Donc, c'est comme ça qu'on choisit nos projets. Donc, il y a beaucoup de projets qu'on dit non si ce n'est pas aligné avec cette intention-là et cette direction-là qu'on prend à travers Never Was Average. Donc, je te dirais, tout ce qui va à l'encontre de l'intérêt de la communauté,
non.
C'est un non automatique.
Okay. Et il y en a?
Ah oui, il y en a plusieurs. Oui. En fait...
Non, on ne va pas citer, mais...
Non, je ne vais pas citer, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Puis il y a aussi également...
Harry, je ne veux pas qu'on... Parce que je vois le temps filer là, mais je veux absolument que juste cette partie-là, on la finisse. j'ai un projet, je viens, je dis, je coche la case, c'est pour la communauté. Ouais. Je le fais pour la communauté. Vous, vous me dites non parce que vous estimez qu'il ne correspond pas vraiment à la communauté. C'est pourquoi ? Parce que je suis plus dans un intérêt personnel qu'un intérêt collectif. C'est ça qui va vous faire dire non ?
Ça pourrait, entre autres, faire partie de ça. Il y a également aussi... On regarde beaucoup aussi ce qui a été fait dans le passé. Donc, parce qu'il faut qu'il y ait certaines...
Comme ils disent, atomes
crochus, comme ils disent. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas nécessairement que ton projet, exemple, n'est pas bon. C'est peut-être qu'on n'est pas les bonnes personnes pour ce projet-là.
Puis aussi, je vais ajouter ça, parce que c'est un point qui est important. Nous, on va dire non, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas s'il y a quelqu'un d'autre que peut-être... Oh, peut-être que c'est mieux que vous collaborez avec ces personnes-là. Non, on est vraiment dans l'abondance. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, je voulais juste ajouter ce point-là parce que c'est important.
Mm-hmm. Ouais, mais honnêtement, ça va vraiment aller sur les objectifs du projet. Est-ce qu'on arrive à trouver des axes stratégiques qui se rejoignent? Puis aussi, sinon, après ça également, on va regarder aussi l'équipe. Pour nous, l'être humain est important. Donc, si sur une base humaine, on ne connecte pas, on peut pas collaborer ensemble. Puis comme je te dis, on a une approche qui est tellement communautaire, qui inclut tellement les intérêts de la communauté que quand on est en conversation dans les premières phrases, on peut automatiquement ressentir
que c'est pas bon.
Exactement. Et c'est pas que c'est ça que je dis ça. Je veux pas dire que c'est pas bon. Je veux pas dire que tu as des mauvaises intentions, mais c'est simplement qu'on ne clique pas. Donc on va avoir une incohérence et on va pas se comprendre, puis la communication va pas bien passer, puis comme je te dis, je pense qu'on n'est juste pas un bon fit. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment des éléments clés comme ça qu'on regarde pour choisir nos projets aussi.
OK. Je suis vraiment très, je le répète encore, très content que vous ayez pu trouver, vous ayez pu vous dégager de vos différentes obligations pour venir nous parler. C'est quoi son principal défaut, Harry, Johanna?
C'est mon principal défaut. Je ne sais pas.
Tu peux dire la vérité?
Ah non, je sais pas.
Oh, il n'en a pas?
Non, c'est sûr, il en a.
Elle ne sait pas lequel choisir.
Vous vous chicanez quand vous travaillez?
Toujours.
Mais oui.
Toujours.
Qu'on est le yin et le yang.
Okay.
On est vraiment différents. Puis je pense que c'est dans la différence qu'on est capable de créer un duo vraiment fort qui va dans la même direction. Et il a des compétences que moi, je n'ai pas. Et j'ai aussi beaucoup de défauts. Donc, des fois, c'est juste de communiquer correctement et de s'écouter, de prendre le temps surtout.
Bon, comme tu ne veux pas dire c'est quoi son...
c'est quoi son
défaut? Toi, tu l'as, là, son défaut, là. Tu l'as déjà. Fais pas ton scorpion, là. Réfléchis pas trop.
Je pourrais dire, elle est vraiment... elle a... Tunnel vision, elle a la tête dure.
Okay.
Quand elle a une vision, ça doit se passer comme ça. Donc,
Et à la fin, elle a raison?
Oui. À la plupart du temps.
Okay.
La plupart
99%.
Je ne vais pas mettre un pourcentage dessus, mais je veux dire la plupart du temps. La plupart du temps.
Ouais.
Non, sinon, on ne serait pas ici.
Ouais. OK.
Puis avant que je vous laisse, je tiens à préciser, si on vous dit non aussi, des fois, c'est juste parce que le timing n'est pas bon.
Il y a ça aussi. Ce que je disais là.
Il y a le timing aussi. Des fois, le timing n'est pas bon. Donc, je ne veux pas que les gens pensent qu'on a dit non parce que leur projet, ce n'était pas communauté et tout.
La liste d'attente doit être très longue.
Des fois, le timing fonctionne.
Là, je viens de vous écouter. Là, j'avais mon projet, mais je crois que je vais d'abord aller réviser encore bien des choses pour voir si ça fit avec vos valeurs et tout ça. Non, mais sincèrement, je suis vraiment très heureux de vous avoir parlé là, à part nos discussions de l'extérieur. Moi, c'est surtout que le public voit encore qui vous êtes, ce que vous faites comme travail devant lequel je suis admiratif. Et puis je le promets là devant tout le monde entier. Je vais venir faire la bulle là,
fais pas une promesse que tu peux pas, pas tenir là.
Non, mais
je sais ce que t'es tous les dimanches. Je viens te chercher.
Moi je suis, tu vois, c'est pas comme il disait. Je ne dis pas non, c'est pas parce que je ne veux pas. C'est juste que ça tombe le dimanche. Ouais. Pour peu qu'un jour tu le mettes le samedi, qui sait.
On va en faire un samedi juste pour toi.
Ok. Tu as dit qu'on ne fait pas de promesses, mais allons-y, on va voir. Merci encore à tous les deux. Puis je vous suis, puis je dis qu'on va devoir parler des créateurs, pas comme les autres. pour voir un peu en novembre où ils sont rendus. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à suivre le travail de Never Was Average. Alors, c'est sur toutes les plateformes qui existent. Voilà, vous avez la possibilité de le faire. Merci à tous les deux. On se dit à bientôt.
Merci.
Mon nom est Cyril Equala.